Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 17 janvier 2019. On est à une date où il fait plus la température est plus froide que la date.
On en rit là, mais c'est pas drôle du tout.
Oh non, mais c'est pas.
Mais les journées allongent quand même.
Oui, c'est ça.
Les journées de lumière, oui. En fait.
Alors, vous avez entendu des voix, dont la mienne, Yvan Deslauriers, qui vous parle et qui animera aujourd'hui avec moi en studio l'équipe du jeudi matin au complet. Monique Kerouac.
Bonjour.
Et Marie Lalande.
Bonjour.
Et derrière la vitre, il y a Maurice Bolduc.
Oui, bonjour. Bon jeudi.
Qui nous donne une voix dans cette émission. Alors, Monique.
Oui.
De quoi est-ce que vous allez parler? Hey, j'ai mis « tu » dans mon...
C'est très bien.
Dans mon texte.
J'aime bien être vous voyez comme ça par vous, cher ami.
D'accord.
Alors, d'abord, en première partie, simplement, vous avez peut-être entendu que le Québec Science a... choisi les 10 découvertes les plus stimulantes, novatrices.
Oui, ils font ça une fois par année, me semble.
C'est ça, oui. Alors, j'en avais parlé l'année dernière, j'en reparle cette année. Alors, j'ai choisi deux de ces découvertes. Et en première partie, j'en ai retenu une qui concerne une découverte du domaine des neurosciences. Alors, pourquoi le stress chronique et la dépression sont associés? Je vous révélerai ça.
Oh là là! Marie.
Dans un premier temps, un très court texte sur qu'est-ce qu'on fait avec les jeux, les millions de jeux que les enfants ont reçus à Noël.
Oh.
Alors, comment on fait pour faire circuler ça? Ben, la quantité,
oui.
On pourrait dire ça. Et dans un deuxième temps, en première partie, qu'est-ce qu'on peut faire comme parents pour favoriser le bien-être des enfants qui ont un trouble d'apprentissage?
OK. Et moi, de mon côté, je fais... une suite un peu à un article que je vous ai lu la semaine dernière sur les activités d'hiver à Montréal. Alors, on peut prendre sa paire de skis alpins, prendre le métro, puis aller faire du ski.
Wow!
Je vous raconte.
On écoute attentivement.
Alors, c'est notre programme pour la première partie. On commence par jouer.
Oh oui, on commence par jouer, puis faire quelque chose avec les jeux. Finalement, c'est surtout ça. Le texte s'intitule « La ronde des jeux ». C'est José Bournival qui est auteur, animatrice, blogueuse, et qui a écrit ce texte-là, qui a été publié sur le site naître-et-grandir.com le 11 janvier dernier. Alors, c'est elle qui parle. « Je suis assise sur un tabouret d'enfant en plein cœur de la salle de jeu. À moins de me dynamiter un chemin, je doute de trouver la sortie vivante, tellement le sol est couvert de jouets.
Wow. Ça me rappelle quelque chose.
Oui, oui, oui. Chaque année, c'est le même constat. Les enfants ont reçu trop de bébelles à Noël. J'ai beau offrir des livres, des abonnements à des magazines jeunesse, des billets de spectacle et des vêtements, les joujoux envahissent notre maison. La parenté gâte trop mes enfants, même chose pour l'amoureux et moi. Janvier est donc synonyme de ménage. Vous l'aurez compris, il m'est formellement interdit par mes enfants de leur retirer les cadeaux reçus à Noël. Mais d'anciens jouets vont mystérieusement disparaître. Certains jeux seront donnés, d'autres vendus, et une partie des joujoux seront cachés. Par le passé, j'ai essayé de faire participer les enfants, leur demander de quels jouets ils étaient prêts à se séparer. Aucun. Résume pas mal mon expérience personnelle. Mes tentatives de ménage se sont toujours terminées par des crises de larmes, des chicanes, etc.
Oui, j'approuve.
Fille numéro 1. Alors, c'est une conversation.
D'accord.
Fille numéro 1. On donne celui-là. Moi, c'est José Bournival. C'est à ta sœur. Fille numéro 2.
Elle est généreuse.
Oui, c'est ça. Fille numéro 2. Vendez pas mon toutou. Dommage, car je trouve que cette activité permet plusieurs apprentissages. Partage, classement, priorité, etc. Peut-être que dans quelques années, quand ils auront grandi un peu, la chose sera possible. Je profite donc du retour à l'école et la garderie pour nettoyer sans les enfants. Ma partie préférée consiste à cacher certains jouets. Quelques mois plus tard, quand ils constateront la disparition d'un jouet, je le sortirai de sa cachette et ils joueront avec, comme s'il était neuf. C'est une astuce qui fonctionne particulièrement bien avec de jeunes enfants lorsqu'ils se désintéressent de leurs jouets. Lorsqu'ils retrouvent un joujou, ils ont l'impression qu'on les gâte et ça ne nous coûte pas un sou. Ça désencombre la chambre des petits ou la salle de jeu, ça facilite le passage de la balayeuse, bref, il n'y a que des avantages. Et l'article se termine par quelques questions. Et vous, êtes-vous adepte de la rotation des jouets? Le faites-vous ou avez-vous envie d'essayer ou l'avez-vous fait par le passé? Alors moi, je le dis là, je l'ai fait allègrement. Mm-hmm. Et quand les enfants ont été plus vieux, ils ont participé à ces prises de décision pour partager leurs jouets puis les donner à d'autres. Mais effectivement, il faut faire le ménage.
Avec des résultats mitigés.
Oui, mais quand même, des bons, quand même, parfois des bons. Alors voilà, c'est un texte de José Bournival, publié sur le site naitreetgrandir.com le 11 janvier.
Alors moi, de mon côté, je vous amène ce qui est en ville, littéralement. C'est un article de Christian Geyser dans la presse du 14 janvier 2019. Démocratiser l'apprentissage du ski et permettre aux Montréalais de se réapproprier les plaisirs de l'hiver sans quitter la ville ni même devoir prendre leur voiture. Voilà la mission de la pente à neige versant sud-ouest. J'espère qu'il va y avoir un acronyme de cette affaire-là. La seule station de ski urbaine du monde.
Quand même.
Ça, j'étais plutôt surpris. Vous voulez que vos enfants s'initient au ski ou à la planche à neige sans que cela devienne une expédition? Une solution simple s'offre à vous. Allez au métro en Grignon, marchez 5 minutes et skiez. Le parc Ignace Bourget dans l'arrondissement du Sud-Ouest dispose de tout le nécessaire pour apprendre la glisse, y compris un remonte-pente et bien plus encore. Originaire des Alpes, Esteban Davet, fondateur de la pente à neige versant sud-ouest, veut démocratiser l'accès aux sports d'hiver. « Je suis né dans l'hiver et dans ses activités, » dit-il. « J'ai eu la chance d'en profiter très simplement. Pas loin de chez moi, il y avait des pentes naturelles où on pouvait apprendre à skier. Il y avait aussi une dynamique pour que ces activités soient accessibles aux enfants dès le plus jeune âge. C'est quelque chose que j'adapte et que je mets à la couleur de Montréal et de la réalité d'ici. » Alors, sur place, il est possible de louer tout l'équipement nécessaire et de suivre des cours de ski et de planche à neige. Ceux-ci se déclinent en forfait découverte de 45 minutes ou en cours privés qui peuvent durer ou encore des cours qui durent 6 semaines. Ce que les gens apprécient beaucoup, selon M. Davet, ce sont les cours sur 6 semaines, ce qui permet à nos moniteurs certifiés de donner suffisamment de contenu aux gens afin qu'ils puissent être autonomes et ensuite découvrir les stations de ski du Québec. Les cours de ski s'adressent aux enfants de 3 ans et plus et aux adultes. Vous avez écouté ça, vous avez entendu ça là? Tandis que ceux de planche sont offerts aux glisseurs âgés de 3 à 13 ans. Il est aussi possible d'apprendre par soi-même grâce à des stations d'apprentissage autodidactes. Les gens apprennent à leur rythme à travers des défis liés à leur niveau de débutant. Dans une volonté de rendre l'hiver plus amusant, d'autres activités sont également proposées sur place. On y trouve notamment les plus longues glissades sur tube de Montréal d'une longueur de 300 mètres et aussi des activités gratuites comme un grand jeu de boules de neige, par exemple. Les plus frileux, comme aujourd'hui, pourront aussi profiter de l'hiver au chaud dans une yourte. Ça, c'est comme un igloo.
Oui, tant que c'est pas pour dormir.
C'est un petit peu plus chaud.
Ou encore sur la terrasse hivernale tempérée, où il est possible de projeter des films et d'accueillir des groupes de musique. À sa première année d'activité l'an dernier, 12 000 personnes ont profité des installations de la pente à neige. Cette année, au moins 32 000 personnes sont attendues, dont des élèves de 14 écoles. Les familles à faible revenu peuvent bénéficier d'une aide financière. Alors, c'est une façon d'aller skier en ville, au bout du métro en Grignon. C'est un article de Christian Geyser dans la presse du 14 janvier.
Je voudrais du soleil vert des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin l'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre.
Jardin d'hiver par Louis Chédid.
Oh, une chanson qui va très bien avec la journée d'aujourd'hui.
Oui, qui nous réchauffe le corps et le cœur.
Et le cœur, parce qu'on est à l'intérieur.
Oui, c'est ça, exactement.
Alors, à une époque, je lisais un livre qui s'appelait « Le stress sans détresse »
Oui, il a inventé le stress.
Je ne sais pas s'il l'a inventé, mais oui.
Il l'a nommé, lui.
Il l'a nommé. Oui, parce que c'est inhérent à l'être humain.
Alors, Monique, tu nous parles d'une recherche qui a fait le lien entre le stress et la dépression.
Exactement. Alors, c'est un texte de Marine Letarte pour le Québec Science de janvier-février 2019. Et il s'agit, comme je disais d'entrée de jeu, d'une des 10 découvertes retenues parmi les 16 000 qui ont été soumises à Québec Science. Et ça s'intitule « Quand le stress ouvre la porte à la dépression ». Mais c'est le stress chronique. Il faut faire attention parce que le stress fait partie de notre vie, de notre réalité. Oui. Alors, bon, on met l'expérience est bien sûr d'abord faite sur ces petites souris qui font partie de l'ADN des laboratoires. Mmh. Alors, imaginons de petites souris noires qui sont placées dans une cage où on les laisse se faire intimider par une grosse souris blanche, agressive, et ce, pendant quelques minutes chaque jour. Le reste de la journée, bien, notre souris blanche, la méchante, elle est tenue à l'écart grâce à un séparateur, mais les petites souris noires la voient toujours et la sentent. Alors, ça fait pas grand-chose pour diminuer le stress. Mmh. Hein, ça encourage tout à fait. Et cela dure 10 jours. C'est une période suffisamment longue pour engendrer un stress chronique chez nos petites souris noires. Alors, c'est par cette expérience, qui peut nous sembler un peu cruelle, mais bon, nécessaire, que l'équipe de Caroline Ménard, qui est chercheuse en neurosciences à l'Université Laval, a découvert le mécanisme cérébral et ce mécanisme qui explique pourquoi les souris soumises à un stress finissent par manifester des symptômes dépressifs, d'où le lien dans le titre. Et tout indique que ce phénomène s'appliquerait aussi à l'humain. Alors, notre cerveau renferme un dispositif de protection que l'on qualifie de redoutable. C'est la barrière hémato-encéphalique, BHE, la BHE. Je vais parler à quelques reprises de cette barrière. Son rôle, c'est d'empêcher la majorité des molécules et des micro-organismes qui sont présents dans le sang d'atteindre le cerveau, en laissant quand même, bien sûr, passer l'oxygène et les nutriments nécessaires pour que notre cerveau fonctionne adéquatement. Or, chez les souris exposées au stress, cette barrière d'efficacité, d'étanchéité perd son efficacité et permet à des molécules inflammatoires qui favorisent donc le stress et l'apparition de symptômes dépressifs de se rendre au cerveau. Alors, après l'expérience, nos chercheurs ont fait différents examens du cerveau des souris qui ont révélé que chez la majorité d'entre elles, il y avait une porosité plus élevée de leur barrière hémato-encéphalique, donc la BHE. Mmh. La quantité de Claudine 5, alors c'est pas Claudine à la plage, on l'appelle comme ça l'une des protéines les plus importantes qui, elle, assure l'étanchéité de la BHE, avait aussi diminué de moitié, donc de 50 % chez les rongeurs, nos petites souris noires, devenues stressées. Mmh. Donc, à la suite de l'épisode de la cage, des symptômes dépressifs ont été observés chez nos petites souris noires. Vous allez me demander, ben Monique, comment on sait que les petites souris sont dépressives?
C'est ce que je pensais,
écoutez, on les plonge dans un... Il y a plusieurs tests, mais entre autres, on les plonge dans un bécher d'eau. Et là, les souris qui sont en santé se débattent pour en sortir, alors que les petites bêtes déprimées, elles se laissent flotter.
Oh.
Alors, c'est comme ça qu'on peut décoder qu'elles sont déprimées. Alors, pour savoir si ces résultats étaient appliqués à l'humain, parce que c'est ça qui intéresse, bien sûr, en bout de piste, l'équipe a analysé des tissus cérébraux qui provenaient de banques de cerveau, de personnes, donc, et plus des deux tiers des 63 cerveaux étudiés avaient été prélevés chez des gens qui s'étaient enlevé la vie. Alors, ces derniers présentait un niveau de Claudine 5, notre protéine, la protectrice, 50 % plus bas. Mm-hmm. Donc, la même réaction que nos souris grises. Mm-hmm. Alors que la dépression, on le sait, touche beaucoup de gens. En fait, on dit 300 millions d'individus dans le monde et qu'elle est la principale cause d'invalidité. Cette découverte-là est vraiment importante. Le suivi auprès des personnes dépressives est vraiment aussi essentiel. Alors, à partir de cette découverte-là, on pourrait surveiller l'étanchéité de la BHE. On pourrait aussi concevoir de nouveaux antidépresseurs pour rendre cette barrière plus étanche. Mm-hmm. Parce qu'actuellement, 30 à 50% des personnes qui dépressives répondent peu ou pas aux antidépresseurs. Ensuite, Caroline Ménard, notre chercheure vedette, elle veut aussi appliquer le concept de la diversité aux souris, parce que la dépression est deux fois plus fréquente chez les femmes. Mm-hmm. Mais les expériences en laboratoire sont faites sur des souris mâles, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas à tenir compte du cycle hormonal.
Okay.
Donc elle s'est dit, ça suffit, on va examiner les souris femelles. Mm-hmm. Alors, ça nous permettra vraisemblablement de mettre au point de meilleurs traitements contre la dépression et entre autres auprès des femmes.
Wow.
Alors, bravo à Madame, à notre chercheur Ménard, et c'était un article de Martine Letarte pour la revue Québec Science de janvier-février 2019.
Merci beaucoup. Alors Marie, depuis quelque temps, plusieurs années maintenant, on parle de troubles d'apprentissage et les difficultés d'avoir à avoir un enfant qui a ces troubles-là.
Mm-hmm.
Mais alors, là, oui, t'ouvres une fenêtre différente.
En fait, oui, j'ouvre. Moi, je contribue à tenir la porte ouverte. C'est Solène Bourque qui l'ouvre.
Mm-hmm.
C'est un article qu'elle a écrit. Solène Bourque, qui est psychoéducatrice, qui est enseignante. Donc, il a publié ce texte-là sur le site aidersonenfant.com. Je l'ai vu passer sur Internet pendant le congé des fêtes, mais c'est un article qui date un peu de mars 2017, mais la réalité est la même maintenant. Mm-hmm. Et donc, le titre, c'est « Favoriser l'épanouissement d'un enfant avec un trouble d'apprentissage ». Parce que, et c'est important, parce que lorsqu'un enfant reçoit un diagnostic de trouble d'apprentissage, on parle de dyslexie, de dysorthographie, de dyspraxie, etc., il y a deux sentiments qui émergent habituellement. Le soulagement, d'abord, de saisir enfin ce qui se passe, de comprendre la source de tous les défis qui étaient déjà présents au quotidien, mais aussi le sentiment d'être différent des autres. Ces sentiments sont présents tant chez les enfants que chez les parents.
Mm-hmm.
Et donc, chez les enfants, on pourrait observer un manque de confiance dans ses compétences, une peur de l'échec, un manque d'estime personnelle et des comportements d'isolement social. Et donc, dans l'article, on propose quelques stratégies qui pourraient aider les parents à mettre en place un environnement aidant et favorisant le bien-être et l'épanouissement des enfants. D'abord, rassurer l'enfant. On lui dit qu'on l'aime pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Ça va lui permettre de se centrer sur ses efforts et non sur les résultats liés à ses apprentissages scolaires. Ensuite, on peut souligner ses forces, parce que chez les enfants, il y a toujours des forces. Chez les adultes aussi. Et donc, c'est important d'expliquer aux enfants ce dans quoi ils sont bons et capables. Ça peut être une activité sportive, ça peut être le dessin, ça peut être leur sensibilité envers les autres. Et c'est particulièrement important à partir de l'âge de 7 ou 8 ans, parce que c'est le moment où la pensée logique se met en place et que ils sont les enfants davantage capables de se comparer aux autres. Ensuite, on peut organiser avec lui un espace qui va favoriser sa concentration et le calme pour les devoirs et les leçons. On peut ranger le matériel à portée de main, utiliser des outils visuels pour l'aider à progresser. On pense à une liste de tâches imagées ou des consignes illustrées par des pictogrammes ou un tableau de valorisation. Et ça va le sécuriser, ça va lui permettre de développer son autonomie et sa confiance en lui. On peut aussi utiliser du matériel adapté à ses besoins pour qu'il ressente un niveau de bien-être suffisant, qu'il vive des réussites. Alors, selon ses défis, il pourrait avoir à sa disposition des coquilles anti-bruit, ça ressemble à des écouteurs pour s'isoler, des bruits ambiants, des bracelets anti-stress, ou bien une minuterie ou un sablier pour mieux l'orienter dans le temps et fractionner la période de travaux en petits défis de 5 à 10 minutes. Et finalement, on peut discuter avec lui afin de trouver une activité parascolaire dans laquelle il pourrait se sentir bien, heureux, compétent, que ce soit une activité artistique, sportive ou de loisir, ça importe peu, mais c'est la valorisation qu'il va développer grâce à cette activité qui fera une différence sur son niveau de confiance et d'estime personnelle. Et ça, ça peut avoir un impact qui va se manifester aussi dans les autres parties de sa vie. Un autre défi qui se présente souvent à la suite de la confirmation d'un diagnostic de trouble d'apprentissage, c'est l'incompréhension de la famille et des amis. Ce n'est pas toujours simple de comprendre une telle problématique. Plusieurs personnes banalisent ou dramatisent la situation. Ça pourrait avoir un impact négatif sur votre enfant puis sur vous-même aussi. Afin de favoriser le meilleur soutien possible pour votre enfant, c'est important que toutes les personnes qui gravitent autour de lui comprennent bien le diagnostic et les difficultés que ça occasionne. C'est donc primordial d'expliquer ce qui se passe en mots simples, en adaptant votre discours aux personnes à qui vous vous adressez. Il y a plusieurs livres intéressants et bien vulgarisés qui existent sur les troubles d'apprentissage et ces outils peuvent également permettre à votre enfant, selon son niveau de compréhension évidemment, de mettre des mots plus clairs sur ce qu'il vit. Ça le sécurise, ça l'incite à aborder le sujet ouvertement avec ses amis, avec ses enseignants. puis avec les autres personnes de son entourage. Alors, un petit peu plus tard dans l'émission, je reviendrai avec des ressources utiles, des exemples d'ouvrages qu'on peut consulter. Merci à Solène Bourque pour cet article qu'on peut trouver sur le site aidersonenfant.com.
Alors Marie, on a un peu de temps, alors tout de suite des ressources.
Oui, alors une, la première, la collection « Laisse-moi t'expliquer » qui est publiée aux éditions Midi 30. C'est une série d'albums éducatifs pour comprendre et mieux vivre la différence. Ça s'adresse aux enfants directement de 6 à 12 ans, à leur entourage. Ça démystifie plusieurs problématiques, dont les troubles d'apprentissage, dyslexie, dysphasie, dyspraxie. Voilà.
Oui, aussitôt qu'il y a un 10, là, on oui. panique un petit peu. Là.
Oui, tout à fait.
Monique.
Une petite capsule linguistique.
Une petite capsule.
Ça fait longtemps.
La première de 2019.
C'est ça. Avez-vous déjà rencontré un problème?
Rencontré, pas personnellement.
Non. C'est tout à fait fautif.
D'accord.
On rencontre pas un problème. Hein? On fait face ou à un problème ou on a un problème.
On subit.
On subit un problème, c'est ça. On peut éprouver des difficultés. On peut aussi respecter un délai pour rencontrer un délai.
Ouais.
On peut subvenir à un besoin au lieu de rencontrer un besoin. Uh-huh. Donc, on rencontre une personne pour la première fois.
Qui nous fait vivre un problème.
Qui peut nous faire vivre un problème.
Ou voilà. Des belles choses.
Alors, c'était une des capsules linguistiques, bien sûr, de Guy Bertrand.
Merci. Alors, de mon côté, faire des squats pour renforcer ses muscles, c'est pas particulièrement amusant. Pas plus que tourner en rond pour augmenter son rythme cardiaque. C'est beaucoup plus rigolo en patin, en plein air, sur la patinoire du Vieux-Port de Montréal. Le Vieux-Port a décidé d'offrir 2 séances de cardio sur glace par semaine, les lundis midi et les mercredis soirs, avec des entraîneurs professionnels. L'activité d'une durée d'une heure est gratuite, mais il faut avoir un niveau intermédiaire en patinage pour vraiment bénéficier de la séance. Pour l'instant, le Vieux-Port prévoit offrir cette activité pendant le mois de janvier uniquement, mais il pourrait l'étendre au reste de la saison si les patineurs en redemandent. Et avant de nous quitter pour une petite pause, Marie, as-tu un mot d'enfant?
Oui, alors selon Nathan, qui a 8 ans, vieux, c'est quelqu'un qui dit « tu » à tout le monde, alors que tout le monde lui dit « vous
». Oh, que je me sens visé tout d'un coup.
Ben oui.
Alors là-dessus, je sens que j'ai besoin d'une petite pause et on vous revient dans quelques instants avec des articles sur les sciences, sur les enfants et sur les activités sportives. Alors, rebonjour, on entame la deuxième partie des Voix de service magazine du jeudi 17 janvier, bien au chaud, à l'intérieur. Et heureux de vous transmettre des articles qu'on a trouvés pendant la semaine puis qui nous ont allumés. Alors, Monique, tu as une grosse deuxième partie, toi?
Oui, j'ai deux articles.
Oui.
Je suis gâtée. Hein?
Vas-y.
Alors, une deuxième découverte qui concerne le cancer de l'utérus et de l'ovaire. Il faut savoir que c'est le troisième en incidence quant à la mortalité et très difficile à dépister, semble-t-il. Et cette situation est en train de changer grâce à deux chercheurs, en fait.
D'accord.
Et un article qui répond à la question « Minuit est-il l'heure du crime? »
Ça, on garde ça pour la fin.
Oui, c'est ça. Exactement.
Ça va être notre dessin.
Oui.
Alors, Marie.
Moi, je vous présente un illustrateur québécois, Stéphane Poulin. C'est tout.
OK. Et moi, de mon côté, je vous présente le premier carnet d'endorphines de 2019 où Geneviève Lefebvre va nous présenter une liste de ses envies et non pas des résolutions. Vous allez voir. Alors, Monique, sur ma feuille de l'émission, c'est écrit « Traquer les cancers silencieux ». Et d'après ta présentation de tantôt, il faut croire qu'ils deviennent de moins en moins silencieux?
Bien, en fait, ça va nous expliquer quel est ce silence.
Okay.
C'est un article de Renaud Manuguera pour toujours la revue Québec Science de janvier-février 2019. Alors, lorsqu'on demande à Lucie Gilbert son avis sur le traitement actuel des cancers de l'utérus et de l'ovaire, elle est directrice du service de gynécologie et d'oncologie du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, elle est catégorique. Elle dit que c'est inacceptable qu'en 2018, on ait le même taux de guérison qu'il y a 25 ans. Et elle dit qu'elle ajoute que très peu de secteurs ont si peu évolué. À l'heure actuelle, il n'existe aucun test de dépistage fiable. Je souligne fiable parce qu'il y a des tests, mais pas fiables. Des cancers chez les femmes qui n'en présentent pas les symptômes. Parce que ça peut être... C'est là qu'il est silencieux.
C'est là le silence, oui.
Et même lorsque ces symptômes apparaissent, ils demeurent vagues et facilitent très peu le diagnostic. Dans ces cas-là, il est possible d'évaluer les risques avec une échographie ou par des tests sanguins. Toutefois, ces tests ne permettent pas un diagnostic clair et ils entraînent beaucoup de faux positifs. Alors, après avoir expliqué la situation aux patientes, on leur propose souvent l'ablation, tout simplement, de l'utérus et de l'ovaire. Ce que nous dit Chris Jordan, qui est le deuxième chercheur dans la recherche, quoi. Alors, c'est uniquement après qu'on a confirmé, après l'ablation, s'il y avait cancer ou pas, parce qu'on fait une étude pathologique. Alors, celui-ci est alors souvent un stade avancé, il a trop progressé, donc nécessite un traitement de chimiothérapie qui affaiblit, bien sûr, tout le système immunitaire de nos patients. Alors, ces interventions offrent en plus un taux de survie de seulement 40 %. C'est pas beaucoup, là. Un chiffre qui a peu bougé, encore une fois, depuis les dernières décennies. Alors, la solution, alors on arrive à la découverte, ce serait de dépister la maladie à un stade précoce. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, nos deux chercheurs arrivent pratiquement au but. Alors, ils ont élaboré un test qui s'appelle le PAP-SEEK. Alors, PAP, S majuscule, E majuscule, E majuscule, K. SEEK, comme on cherche.
Comme trouver, oui.
Ouais, c'est ça. Ben, chercher, en fait. SEEK. Okay. Qui consiste en l'analyse génétique d'un prélèvement de cellules de la paroi utérine, une procédure qui ressemble au PAP-test que les femmes subissent, je dis bien subissent, chez le gynécologue. Le PAP-SEEK permet donc de détecter la présence de mutations dans les cellules. On a 18 gènes qui sont associés au cancer et qui, donc, nous permettraient d'identifier s'il y a vraiment cancer. Alors, ils rendent possible le repérage des cellules anormales. Mais il faut que le prélèvement se fasse très près de la tumeur. Et c'est là que les chercheurs ont eu l'idée d'employer la brosse Tao. Et c'est une brosse qui permet de prélever des cellules directement dans l'utérus, au plus près de la tumeur, sans qu'elles aient contaminé les autres cellules du col. Et donc d'arriver à un diagnostic plus juste, en fait. Alors, ils ont fait un échantillonnage. Chez les patientes qui avaient déjà reçu un diagnostic de cancer, avec ceux recueillis chez des femmes en santé. Et les chercheurs sont parvenus à détecter jusqu'à 93 % des cas de cancer de l'utérus et 45 % de ceux de l'ovaire, et ça sans aucun faux positif.
Oh là là,
donc, c'est une première technique non invasive et vraiment formidable, mais il reste du travail à accomplir. La prochaine étape, c'est de mettre à jour une signature génétique. Je vous parlais des 18 gènes associés, donc 18 cellules qui deviennent anormales, et c'est là que l'on va travailler pour voir si les femmes ont vraiment besoin d'une chirurgie ou pas, et donc d'aller en prévention plutôt que trop tard.
C'est un progrès remarquable.
Oui, tout à fait. Alors, c'était un article de Renaud Manuguera Gagné pour la revue Québec Science de janvier-février 2019.
Alors, les amis, je vous lis un carnet d'endorphines le premier de l'année 2019. J'ai de la misère avec mes mots. Ça s'appelle « La liste de mes envies qui ne sont pas celles de Grégoire Delacour », pour ceux qui ont lu le livre.
Et qui ont des lettres.
Oui.
Quelques-unes, en tout cas.
Oui, oui. Écrit, évidemment, par Geneviève Lefebvre dans la presse du 9 janvier 2019. « Les vacances des fêtes sont une parenthèse dans un poème de Lamartine. Le temps suspend son vol et les heures propices nous laissent savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. un bol de café fumant à portée de la main, je me suis installé pour un moment privilégié, établir la liste de mes projets pour la nouvelle année. Note aux lecteurs, ou aux auditeurs dans ce cas-ci, laissez faire les résolutions. Les projets sont infiniment plus excitants. Feuille de papier, crayon de couleur, je laisse mes désirs multicolores couvrir le papier sans me censurer. Au milieu de ces rêves, projets et autres désirs, il y a la liste de mes envies sportives qui frétillent, provocantes. Viens, j'ai de la bonne drogue pour toi. Pendant quelques secondes, je feins un semblant de sagesse, ne serait-ce que pour paraître normal. Depuis quand t'es normal, toi? J'avoue. Et en même temps, ce sont des projets de fou. Ce sera dur. J'aurai trop chaud, trop froid, j'aurai mal. Oui, mais souviens-toi, mon cœur, rien au monde ne vaut l'euphorie du sommet du Mont Albert, les chorales gospel du marathon de Charleston, la ligne d'arrivée de l'Ironman de Montréal. Rien? Rien. La seule chose qui accote ça, c'est l'amour. Et encore, l'amour est enfant de bohème, on ne peut pas se fier à lui.
Ça dépend.
Alors que le Mont Albert, oui.
Toujours là.
Oui, c'est ça. Avec ses 1154 mètres de serpentine née de la formation des Appalaches il y a 480 millions d'années, on s'entend-tu pour dire que le Mont Albert n'est pas un enfant de bohème et que c'est un modèle de stabilité affective?
Affective, je ne sais pas, mais de stabilité, oui.
On s'entend. Tout ce que ça prend pour conquérir Albert, c'est du jus de jambe. Après, il est à toi. Merci, bonjour. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'ampoules. Nous disions donc, il y a tant à nager, à courir, à pédaler, à escalader, à randonner, à skier, à pagayer, qu'on ne sait plus où donner de l'endorphine. J'examine la liste des événements sportifs avec la délectation d'une foodie qui se plonge dans son 1001e livre de cuisine, sachant très bien que je ne les ferai pas tous, mais humant l'inspiration comme un sanglier en quête de sa truffe enfouie. Tiens, traverser le lac Tremblant à la nage en pleine canicule du mois d'août. Je me demande combien de temps ça prend de nager 12 kilomètres. Est-ce qu'on s'en sort la peau ratatinée de bord en bord? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Plonge. Tiens, un marathon. Frais et certifié Boston. Il y a celui du petit train du Nord qui me joue le grand jeu avec ses yeux de velours. Moi qui m'étais juré de ne pas recommencer. Tu sais bien que tu ne peux pas me résister. Oh, mais attends, je pourrais skier le pic de l'Aube, le lac aux Américains, puis toutes les Appalaches en février. Ben là, moi, je t'offrirai des perles de glace venues d'un pays où il neige tout le temps. Cesse de résister, fille. Le sport, c'est la vie, et la vie, c'est de la poésie. Je vous souhaite des pages blanches à remplir de beaux projets et surtout de céder à toutes les tentations. Bonne année à tous, nous souhaite Geneviève Lefebvre dans la liste de mes envies qui était publiée dans la presse du 9 janvier 2019.
Je ne sais pas ce qui est pire entre le dire ou te l'écrire, ça semble presque impossible à sortir, mais d'une fois tout dit, le mal est guéri, sortons d'ici. Un pas en avant, ça a mis du temps. Un pas en arrière, tout est à refaire. Peux-tu décider avant de t'engager? J'ai mal au cœur de me faire autant balancer. Comment me dire que le pire est à venir? Car aujourd'hui je te fais bien rire. Autant hier ça repris, demain c'est fini. Sortons d'ici. We'll be right back. pas ce qui est pire entre le dire ou te l'écrire. Ça semble presque impossible à sortir, mais d'une fois tout dit, le mal est guéri. Sortons d'ici. Un pas en avant, ça a mis du temps. Un pas en arrière, tout est à refaire. Peux-tu décider avant de t'engager? J'ai mal au cœur de me faire autant balancer.
La formation Bombolesse, même pas envie.
Ah, alors, Marie, qui est une spécialiste de la lecture des albums dessinés, tu nous présentes un illustrateur.
Oui, je vous présente. En fait, c'est dans la presse plus récemment. Marie-Hélard nous fait découvrir chaque semaine un illustrateur différent. Cette semaine, c'est Stéphane Poulin. Donc, dans les dessins de Stéphane Poulin, c'était dans la presse du 14 janvier dernier, donc c'est tout récent. Lumineux, vivant, plein d'atmosphère, les tableaux, parce qu'on parle de tableaux de Stéphane Poulin, de véritables œuvres à l'huile qui servent à illustrer des albums pour enfants sont quasi magiques. Mieux que tous les tapis volants, ils nous transportent illico dans d'autres univers. Dire que l'artiste, qui se décrit lui-même comme un artisan, devait devenir camionneur. On était 9 enfants dans la famille, explique-t-il. On n'étudiait pas trop longtemps. Fallait se trouver une job à un moment donné. Mais un de ses professeurs du secondaire a parlé à sa mère. Il lui a dit que ça serait le fun qu'il aille au cégep. Il est donc entré en graphisme. Et sa blonde de l'époque étudiait en orthopédagogie. Elle lui lisait des textes sur le développement de l'enfant et il s'est dit « C'est ça que je veux faire, illustrateur pour enfants ». Accueillant, Stéphane Poulin raconte la jeunesse de son travail dans l'atelier qui occupe une pièce double de son appartement du plateau Mont-Royal à Montréal. Il a illustré plus de 100 livres pour enfants depuis 1985, sans compter les romans pour adultes et les affiches. Son succès est international. Stéphane Poulin cueille les lieux et les êtres avec quelque chose qui ne s'explique pas. Comme disait Edward Hopper, précise une critique d'un de ses albums paru sur le site internet d'Elle France. Il offre des illustrations hypnotiques suspendues dans le temps, lit-on dans Télérama. Sa maîtrise de la perspective, des ombres et de la lumière captive petits et grands lecteurs. Alors, ce sont les éditeurs qui lui soumettent d'abord des textes, parce qu'il y a cette notoriété-là maintenant. Mm-hmm. Ensuite, Stéphane Poulin envoie aux éditeurs une esquisse rapide de l'album en cours. C'est un travail préliminaire qui lui déplaît, parce qu'il est perfectionniste. Mm-hmm. Ensuite, il dessine au crayon un scénario maquette complet pendant de 6 à 8 semaines. Ses dessins sont numérisés et envoyés à l'éditeur, et puis transféré sur des toiles que l'artiste fabrique lui-même avec du coton. Vient ensuite la création des œuvres en couleur, toujours à l'huile. Chaque toile prend de 2 à 3 semaines de travail. Je travaille moins qu'à 40 ans, précise Stéphane Poulin. J'ai beaucoup aimé ça, j'en ai fait beaucoup, mais depuis une quinzaine d'années, je prends 1 an pour faire un livre. C'est un beau métier qui, malheureusement, ne paie pas. Pendant des années, ça me chicotait. Comme tout le monde, je travaillais mes 40 heures, mais j'ai le salaire minimum de 1979.
Oh,
yo, yo. Oh, yo, yo. C'est un peu choquant. Aujourd'hui, dans la mesure où le loyer est payé, comme ses enfants sont grands, ça fait son affaire. Mais il pense à la relève et c'est pas facile. Pour chaque album, l'illustrateur touche une avance de 2 500 $. Une fois le livre publié, il reçoit 5 % du prix de vente en droit d'auteur. Heureusement, ces livres sont traduits en plusieurs langues, en plus d'être nombreux à être en circulation. Avec tous les livres mis ensemble, il dit « je gagne à peu près 11 000 $ par année ».
Ah, oh, mon Dieu!
C'est son estimation. Il fait appel au troc, aux dentistes et comptables échangeant leurs services contre des toiles. Et il se plaint pas, là. Il dit « j'ai vraiment de belles jobs, je suis tout le temps chez moi, tranquille, à dessiner. Aujourd'hui, je travaille 35 heures du lundi au jeudi et le vendredi, je fabrique des violons quand même ».
Oh mon Dieu!
Oui, ce qui compte pour lui, c'est luthier. Oui, c'est luthier, mais pas professionnel.
Oui, oui, oui. Ouais.
Ce qui compte pour lui, c'est la reconnaissance des éditeurs et celle du public. C'est la cerise sur le Sunday, décrit-il. J'ai tellement aimé lire des albums à mes enfants, je suis chanceux que des parents lisent mes livres, souligne Stéphane Poulin. Je crois que des enfants bien aimés, pas pourris, mais bien aimés, vont faire une société meilleure.
Mm-hmm.
C'est une belle vision. C'est celle de Stéphane Poulin, sous la plume de Marie Allard, et c'est publié dans la Presse Plus du 14 janvier.
Merci, Marie. Alors, mesdames et messieurs, vous pensez qu'il est 9h50? Détrompez-vous, il est presque minuit.
Oui.
Est-ce que c'est l'heure du crime?
Ah, je ne sais pas. Ben... je vais vous dire ça.
On va vérifier ça.
On va vérifier ça. Alors, c'est un article de Lise Barnéou pour la revue Science et Vie de janvier, en fait c'est décembre, mais janvier-février 2019. Et comme l'année dernière, il y a 100 questions qui sont posées dans cette revue-là. J'en ai choisi une seule pour ce matin. Alors oui, en effet, est-ce que plus de crimes se commettent la nuit? Alors, semble-t-il que rien n'est moins sûr que ça. Par ailleurs, la nuit suggère un espace privé de lumière et donc un peu hors la loi à ce moment-là.
Mm-hmm.
L'obscurité d'une route déserte ou d'une livide ruelle, c'est sûr, provoque immanquablement chez le passant une angoisse diffuse. Tu sais, bon, on a des images de films, n'est-ce pas, de peur. Et bon, on a entendu parler de toutes sortes d'horreurs qui se passent la nuit. La crainte d'être agressé, c'est un fait, on est plus élevé la nuit que le jour. Et ce sentiment d'insécurité varie selon les personnes et selon les quartiers, semble-t-il, sans pour autant que le niveau réel de la menace soit différent. Ça dépend peut-être des villes, mais enfin. Plus qu'à l'heure du crime, minuit semble donc surtout favoriser le sentiment d'être plus vulnérable et donc en danger. Et cette peur-là est sans doute, cette peur du noir, elle est ancestrale. La nuit a pour effet de libérer les tabous, de générer un sentiment d'impunité. C'est la force. Alors, de nombreuses études en psychologie montrent que l'obscurité apporte une sensation d'anonymat qui favorise les comportements déviants. Aussi, les individus plongés dans une pièce sombre ou simplement affublés de lunettes noires trichent plus facilement que les autres. La nuit correspond aussi à un moment de la journée où la consommation d'alcool est plus forte, donc désinhibe les comportements qui peuvent amener à une certaine violence. En matière d'insécurité nocturne, les statistiques sont rares et les analyses également. Donc, elles sont plus complexes à faire. Pour ce qui relève de la violence contre les biens, on le sait, l'heure du délit est rarement connue. On se dit, ben, c'est arrivé après minuit, peut-être entre telle heure et telle heure. Donc, d'où la difficulté d'analyse. Les recherches en criminologie se focalisent sur les lieux du crime, au détriment de la dimension temporelle. D'où la réponse à la question.
Mitigée.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Alors, quelques études donnent pourtant une idée de l'ampleur de la criminalité nocturne. Aux États-Unis, les violences surviennent souvent après 23 heures. À San Francisco, 42 % des fusillades ont lieu entre minuit et 5 heures. À Montréal, on observe un pic de violence entre 2h30 et 4 heures du matin, bien sûr.
Ouais.
Donc, aux heures de fermeture
des bars, ouais,
encore une fois. Ensuite, le niveau baisse, puis remonte en fin d'après-midi. En Amérique du Nord, donc, les atteintes aux personnes augmentent lorsqu'agresseurs et victimes sortent de leur travail et se rencontrent dans la rue ou dans les pubs ou pour aller prendre un pot, quoi. Il est donc difficile de juger de l'efficacité de politiques d'éclairage urbain. Parce que c'est ça aussi qui cette peur qui a justifié la création de l'éclairage urbain. Et ce qui est arrivé, en fait, au 19e siècle. Et l'apogée, c'est dans les années 1970. On dit que les résultats sont plutôt mitigés, par ailleurs. Mais les choses évoluent. Et une étude de 2008 qui a analysé 13 enquêtes américaines et britanniques ont permis donc cette analyse de comparer les quartiers avant et après l'éclairage. Et le verdict, c'est que 8 d'entre elles notent un effet positif sur les niveaux de violence. Mais on n'éclaire plus les villes comme on les éclairait avant. Maintenant, les dispositifs sont plus sophistiqués. Peut-être que ça aidera aussi. Ils sont pensés en fonction de chaque quartier. On envisage même des éclairages déclenchés par des capteurs de présence ou de commandes par téléphone. Mmh. Alors, avec une utilité plus ou moins reconnue, mais ça vaut la peine d'en faire l'expérience. Donc, on espère, à tout le moins, que ça diminuera la peur.
Le sentiment.
Le sentiment de peur et d'insécurité.
Oui.
Alors voilà, c'était un petit article de Lise Barnaou pour la revue Science et Vie de janvier-février 2019.
Je marche tout seul le long de la ligne des chemins de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Alors maman, bobo, maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau.
Le duo Brigitte nous interprétait Allô Maman Bobo.
C'était tellement beau comme chanson. Alors, des petites brèves, Marie.
Alors, encore quelques ressources utiles pour favoriser le bien-être des enfants qui ont un trouble d'apprentissage. Le livre « Les troubles d'apprentissage, comprendre et intervenir », publié aux éditions Sainte-Justine, c'est un outil bien intéressant qui nous donne les informations nécessaires pour comprendre et expliquer le diagnostic des enfants. Et l'Institut des troubles d'apprentissage, qui s'appelait avant l'AQUETA, c'est une autre ressource incontournable pour être mieux outillé afin de favoriser la mise en place d'un environnement sain et aidant pour votre enfant. Institut T-T-A. Donc, Institut, ça finit par un T, avec T-A pour trouble d'apprentissage.com.
C'est beau. De mon côté, je vous invite à vous habiller chaudement en fin de semaine, autant pour aller au Parc olympique. Il y a le festival de sport d'action Barbegazi, où vous pouvez faire du fat bike, lancer des haches et des sapins, entre autres. Et du côté du parc Jean-Drapeau, c'est le début de la fête des neiges qui commence en fin de semaine.
Oui.
Marie, rapidement.
Un mot d'enfant? La foudre, c'est ce qui te tombe sur la tête quand tu deviens amoureux d'une fille, selon Jason, qui a 8 ans et demi.
Et on vous dit un beau bonjour chaleureux pour la semaine prochaine. Bye.